Formule 1 maintenant, victoire sans contredit de Lewis Hamilton en fin de semaine, tout un week-end d'ailleurs pour les Mercedes. Et nous retrouvons avec grand plaisir Jacques Villeneuve. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Alors, une victoire très convaincante de Hamilton, mais j'oserais dire aussi victoire très convaincante des Mercedes dans l'ensemble, hein?
Oui, une grosse victoire. Là, c'était leur week-end, c'était leur course. Ils étaient imbattables, mais ça a parti des controverses. Donc, c'est souvent comme ça quand une équipe est imbattable lors d'un week-end de course.
Et qu'est-ce que tu veux dire par controverse?
Eh bien, Pirelli a changé la gomme pour cette course.
Oui.
Parce que lors des essais hivernaux, certaines voitures, principalement les Mercedes, bullaient énormément, faisaient des cloques sur les gommes. Et donc, ils ont aminci la quantité de gomme qu'il y avait.
Oui.
Il y avait 0,4 mm de moins de gomme. Et ça a aidé principalement les Mercedes.
Uh-huh. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu se contenter d'un seul arrêt au puits, j'imagine. Non, pas nécessairement. Ça,
je ne sais pas, mais c'est surtout que ça leur a permis de pouvoir être à l'attaque sans surchauffer la gomme, sans avoir des grosses cloques. Mais ça, ces gommes-là ne sont supposées être utilisées qu'à Barcelone, à Silverstone et en France parce qu'il y a des nouveaux asphaltes. Mais là, après ce week-end-ci, il est possible que les autres équipes vont bien sûr être très fâchées parce que un changement de réglementation comme ça en pleine saison, c'est assez inhabituel. Et surtout quand c'est un monogomme, les équipes ont préparé, travaillé sur leur voiture, avaient vu ce qui s'était passé pendant les essais hivernaux, donc avaient travaillé sur les réglages et les évolutions de la voiture. Et là, ils arrivent au Grand Prix et c'est pas les mêmes gommes.
Et juste pour être sûr de bien saisir, Jacques, est-ce que il y a seulement Mercedes qui est en mesure de capitaliser sur le changement de réglementation?
C'est ceux qui avaient le plus de problèmes avec les autres gommes.
OK.
Donc, c'était peut-être une meilleure gomme pour tout le monde, mais encore plus pour Mercedes, c'est tout.
OK, tout simplement. Et donc, ça a vraiment changé, effectivement, les choses en fin de semaine, et de là, l'impression de domination. Donc, tu serais pas tenté de dire que ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est une indication de ce qu'on va voir d'ici la fin de la saison à partir des résultats?
Ben, on va se calmer, c'est une course, une seule course. On va rester calme. Non. on va avoir des beaux Grands Prix, une belle bataille jusqu'à la fin de la saison. À Monaco, on va pouvoir voir si les gommes étaient la raison principale ou non.
Ferrari 1 et 2 l'an passé à Monaco. Bottas avait pris le 4e rang et Hamilton avait pris le 7e rang juste pour se rafraîchir la mémoire par rapport à 2017 parce que la prochaine course, c'est Monaco. Mais revenons donc à la course de la fin de semaine remportée par Hamilton qui était surpris que personne ne le pourchasse de plus près.
Non, il le savait. Il était serein. Et tout le monde le savait déjà il y a 2 semaines, avant d'arriver sur ce Grand Prix, qu'avec les gommes, il y aurait un avantage Mercedes. Donc, les pilotes Mercedes le savaient aussi. Et on le voyait, il était calme, serein, tout fier de lui. Donc, c'était une victoire facile, mais c'est toujours des très bonnes victoires. Ça le sont importantes au championnat.
Je comprends. Donc, quand il dit publiquement que « Ah, j'étais surpris de ne voir personne derrière », c'est que c'est très bien que tout le monde va chialer par rapport aux gommes. Et c'est un petit peu ça, non?
Ben oui, parce que plus ça va chialer, et moins il y a de chances que ces gommes soient à Silverstone et en France. Et Mercedes veut ces gommes-là. Mercedes veut garder ces gommes-là pour ces deux Grands Prix parce que ça voudrait dire des victoires pratiquement assurées.
Donc, là, le résultat de la course du week-end fait en sorte que Hamilton a une avance sur Vettel qui est passé de 4 à 17 points. Quand on parle de la course au championnat des constructeurs, 27 points d'avance. Maintenant, je t'avais parlé un petit peu à la blague, j'avais osé une petite prédiction, Verstappen. Ben, il a fini sur le podium, mais on peut pas parler encore d'une course parfaite pour lui parce qu'il y a un bout d'aileron, qui a été magané, mais un podium pour Verstappen quand même.
Ouais, mais il est chanceux parce que lorsqu'on tape l'aileron comme ça, normalement tout s'arrache. Il a failli arracher sa suspension aussi, mais en fait non, la voiture fonctionnait bien. Donc, dans son agressivité, il a quand même eu beaucoup de chance. Mais ce qui est surprenant, c'est pourquoi est-ce que Stroll n'accélérait pas alors que le feu était passé au vert. C'est ça qui était un peu surprenant.
Et donc, Verstappen a probablement anticipé cette accélération-là qui n'est pas venue, ce qui a provoqué le contact.
Il a anticipé, c'était vert. Donc, il faut accélérer. La lumière est passée au vert, la piste est passée au vert. C'était le temps de, la course était relancée.
Non, je comprends. Et quand je dis anticiper, je m'explique, Jacques, c'est qu'il anticipait que Stroll réagirait aussi vite que lui au vert.
C'est un peu la norme du pilotage et d'un Grand Prix.
OK, probablement. Mais il reste que donc, visiblement, tous ne l'exécutent pas ainsi et c'est ce qui a causé le choc.
Oui, non, mais il était peut-être que Lance était en train de, je sais pas, de jouer après son volant ou... aucune idée. Mais normalement, les pilotes savent exactement à quel moment le feu passe au vert. Donc, peut-être qu'il a eu un problème avec les acquisitions de données, j'ai aucune idée.
As-tu l'impression que Stroll quand même se bat avec les moyens qu'il a?
Écoute, on les voit pas vraiment souvent en course, hein, vu qu'ils se battent à l'arrière, donc c'est difficile de juger vraiment ce qu'ils font. Son coéquipier a eu une crevaison en plus. Aucune idée, vraiment aucune idée. Là, je pense que Kubica serait mieux placé pour en parler, puisqu'il a piloté la voiture.
Parle-moi des Ferrari. On a parlé de Mercedes et de leur victoire que plusieurs anticipaient à cause des gommes. Il y en a qui regardent Ferrari sévèrement par rapport aux résultats du week-end. Est-ce qu'ils ont des choses à se reprocher?
Non, apparemment, ils usaient plus leur gomme que les autres, et donc leurs arrêts au puits étaient obligatoires. Ce qui a coûté Vettel le podium, c'est que lorsqu'il a effectué son arrêt au puits, une autre voiture passait dans voie descendante et il a dû attendre. Il a perdu 5 secondes alors que son arrêt au puits était terminé. Et c'est ça qui l'a fait ressortir derrière, sinon il était sur le podium. Donc c'était pas un bon week-end de Ferrari, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Dommage pour Raikkonen qui a sauté, qui a eu un problème mécanique.
Peux-tu m'expliquer ce qui est arrivé avec la manœuvre de Romain Grosjean?
Non, c'est inexplicable. Ce n'est pas de la Formule 1. Lorsqu'un pilote part en tête à queue, surtout dans un virage rapide, la dernière chose à faire, c'est de recroiser la piste. Donc, en tête à queue, il faut appuyer fort sur les freins, partir en ligne droite, vu que les roues seront bloquées, c'est la physique. Et comme ça, tous les autres pilotes qui sont encore sur la piste voient où la voiture va aller et il est possible de l'éviter. Mais là, Romain Grosjean a voulu tenter de faire un 360. Et il s'en foutait complètement de traverser la piste, de mettre de la boucane avec des voitures qui arrivent à 250. C'est honteux qu'il ait même eu l'idée de faire ça.
Et c'est ce que je me disais, parce que c'était très dangereux. J'essayais de comprendre. Lui, il gardait, plutôt que d'appuyer sur les freins, on dirait qu'il appuyait sur la pédale au fond. Il essayait de ramener sa voiture sans considération pour la sécurité des autres, en quelque sorte?
Complètement. Un peu comme si moi ça va pas marcher, ben ça va pas marcher pour les autres non plus.
Exactement.
L'impression qu'on a eue.
Et on se met dans la peau, ne serait-ce qu'une seconde, dans notre imagination, des pilotes qui sont derrière, là, qui foncent là-dedans, là. Tu vois rien. C'est à l'aveuglette totale. Ça me rappelle même.
Tu peux rien faire. C'est surtout que tu ne sais pas où la voiture va terminer, puisqu'elle ne va pas en ligne droite. Donc, toi, t'arrives à toute vitesse. Tu fais ce que tu peux, mais c'est très dangereux. C'est très frustrant. Et quand on voit le début de saison de Romain Grosjean cette année, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça ne s'améliore pas. Donc, il y a une pression qui s'est mise et qui lui fait pas prendre les bonnes décisions.
Juste avant de te quitter, Jacques, en attendant Monaco, peut-être un mot sur d'autres informations de coulisses par rapport aux intentions de la Formule 1 de peut-être apporter des modifications aux ailerons de façon à favoriser les dépassements. Les commentaires de Sébastien Vettel nous indiquent que c'est pas tous les pilotes qui accueillent ça avec joie en se disant ils savent pas ce qu'ils veulent. Quand on va trop vite, ils veulent nous ralentir. Quand on est trop lent, ils veulent qu'on aille plus vite. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben oui, non, il a raison, Vettel. Là, tout le monde chiale sur les ailerons. Mais c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est que les gommes surchauffent et empêchent les pilotes d'attaquer. Donc, dès qu'ils se suivent, elles surchauffent encore plus. Donc, le pilote qui suit ne peut pas attaquer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dépassement. Les ailerons, il y en a toujours eu. C'est vrai que lorsque deux voitures se suivent, il y a une perte dans les virages, mais après, il y a un gain dans la ligne droite en aspiration. Donc, ça se compense. Si les gommes ne surchauffaient pas, comme c'était le cas avec d'autres manufacturiers avant, comme c'est le cas au Mans aussi, avec les voitures du Mans, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Par contre, là où l'aérodynamisme est un peu négative en ce moment, c'est qu'elle est très complexe, elle est très peaufinée. Si on regarde les ailerons avant, il y a quoi, 6, 7, 8 morceaux? Donc, elle est très précise et elle est très efficace. Et dès qu'elle est dans l'air un peu sale, donc en suivant une autre voiture, elle perd toute son efficacité. Donc, elle passe de beaucoup d'appui aérodynamique à rien du tout. Alors que lorsqu'on parle de l'époque où il y avait des ailerons peut-être plus gros, mais juste à deux éléments, ça donnait autant d'appui, mais c'était moins efficace. Donc, lorsqu'il en perdait un peu dans l'air sale, ça continuait de fonctionner. C'est un peu ça le problème. Toutes les aérodynamistes des voitures actuelles ont besoin d'un air parfait pour être efficace. Dès que c'est plus ça, ils valent zéro.
Ben merci de toutes ces précisions fort utiles à notre compréhension, Jacques. Et en terminant, ben ça sera presque à la maison pour toi les deux prochains Grands Prix, Monaco et Montréal. Alors, ça s'en vient vite. Repose-toi bien en attendant, mon cher.
Merci. Deux Grands Prix, le fun et excitant. Ça va être génial.
Ben j'ai bien hâte. On a bien hâte de te voir en face également. Alors, à très bientôt, Jacques.
À bientôt.
Merci. Au revoir. Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1, notre collaborateur aux amateurs de sport. C'est tout pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. Dans quelques instants, place à Bonsoir les sportifs en compagnie de Jérémy Rainville. Et je vous attends demain 18h30 pour notre prochain rendez-vous. Ciao!